Agnès Guéraud, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans Diagonal Sonore. Vous êtes musicienne, vous écrivez, vous composez, vous chantez sous le nom de La Féline, une musique entre pop, rock et chanson pour la caractériser à gros traits. Vous êtes à vos heures perdues critique musicale, notamment pour Libération, mais surtout, en tout cas dans notre contexte, vous êtes philosophe. En 2018, vous avez publié chez La Découverte un livre qui s'appelle Dialectique de la pop. C'est une véritable somme qui vise à produire une théorie esthétique de la forme pop. Alors que bien souvent, les études sur la musique populaire s'interrogent sur l'objet d'un point de vue sociologique ou culturel, vous adoptez un point de vue esthétique en affirmant que la pop est un art musical en soi. C'est toute la force de proposition théorique de votre livre, qui est impressionnant pour plusieurs raisons, et notamment parce qu'il brasse un siècle de musique avec beaucoup d'aisance, en traversant plusieurs styles, plusieurs genres, plusieurs esthétiques différentes. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire d'emblée ce que vous entendez par le mot pop ? Et question corollaire, pourquoi est-ce que vous avez choisi de parler de pop et pas de musique populaire ?
Alors, j'imagine que si j'avais appelé ce livre « Dialectique de la musique populaire », on se serait peut-être attendu à ce que je parle de cette forme musicale qui existe depuis bien longtemps et bien avant le XXe siècle et bien avant les techniques d'enregistrement et de diffusion. Donc si j'avais simplement dit « musique populaire tout court », je pense qu'il y aurait eu cette confusion, c'est-à-dire qu'on se serait dit peut-être un certain livre sur les musiques traditionnelles ou des musiques non occidentales aussi. L'idée d'écrire un livre sur la musique populaire enregistrée, la musique populaire du XXe siècle, m'a conduite plutôt choisir ce terme de pop, mais qui lui aussi a ses ambiguïtés. Parce que, en fait, quand les gens voient ce titre, certains peuvent se dire, c'est un livre sur les Beatles, cette forme qui s'ouvre avec les Beatles et qui se poursuit aujourd'hui avec le hip-hop contemporain. On peut avoir une idée très restreinte aussi de la pop comme genre, ce genre qui s'oppose au rock, à toute une série d'autres genres qui sont innombrables. Donc, le choix de ce mot de pop ici, il est forcément un peu risqué, puisqu'on peut se méprendre sur ce projet qui en fait s'ouvre au champ des musiques populaires enregistrées dans leur ensemble. Et donc pop ici veut à la fois référer au genre pop, au genre R&B, à la country, il y a même des choses dans le livre sur le flamenco, parce que je montre que c'est une musique qui s'est développée aussi via l'enregistrement dès la fin du 19e siècle, et pas seulement avec des transmissions qui seraient simplement par les communautés gitanes, comme l'a rêvé un peu Garcia Lorca, qui a un peu construit comme ça une image enraciné du flamenco, avec raison en partie, mais en fait c'est une musique qu'on enregistre très vite, notamment la Deutsche Grammophon qui envoie des techniciens en fait enregistrer sur site des musiciens et qui ont du succès à travers ces disques enregistrés. Et tout le pari du livre pour aborder cette forme moderne de la musique populaire qu'est la pop en ce sens large, c'est d'arriver à montrer que l'enregistrement n'est pas une addition anecdotique, un élément ajouté au caractère populaire de la musique, mais qu'il a transformé le sens du populaire. Qu'il l'a transformé d'abord en déterritorialisant les folklores, c'est-à-dire que tout à coup, ce qui était peut-être ce qui pouvait circuler par migration s'est mis à circuler avec l'instantanéité et l'ubiquité des enregistrements. et on y reviendra probablement dans la discussion, mais ce phénomène d'enregistrement de cette musique orale, non écrite, voilà, a donc des conséquences sur même ce qu'on peut appeler l'authenticité, puisque cette authenticité, elle est souvent associée aux racines, au local, au fait de partager des choses dans sa communauté, et que ça va nous servir à essayer de penser dans quelle mesure la pop a inventé en fait une nouvelle forme d'art musical qu'on peut distinguer d'autres arts musicaux.
So we started off playing the acoustic bass.
I put the double bass down first. Like when I say first, when with the guitar and the drums. So I then asked Ken, the engineer, if I could go straight back down and overdub the electric bass in tenths, just to give it a little bit more atmosphere or character.
When we first started this, the drummer was told kind of what was wanted, and he started off playing it with sticks, and I was upstairs in the control room, and it sounded like a march. So I just quickly dashed down and told him to try brushes. It stuck, everyone liked it. This is how it finished up.
Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say...
Et oui, par exemple, vous pointez l'opposition entre l'enregistrement de la pop et l'enregistrement de la musique classique, où en fait l'enregistrement de la musique classique n'ajoute rien à l'œuvre en tant que telle, alors que l'enregistrement de la pop, au contraire, ajoute quelque chose, puisqu'il y a un travail au moment de la production ou de la post-production.
Alors, il y a un travail de post-production aussi dans l'enregistrement de la musique classique, et il y a même des textes, un texte d'Adorno dans un volume, je crois que c'est dans un texte qui s'appelle « La forme du disque », En tout cas, Adorno dit qu'il prend conscience de l'importance de l'ingénieur du son, hein, qu'il va falloir pour restituer la vérité de la partition. Il n'y a pas seulement un enjeu d'interprétation, mais il y a aussi un enjeu de prise de son. Donc il ne s'agit pas de minimiser l'importance de la prise de son dans les interprétations de musique dite classique, en tout cas de ce que j'appelle la musique écrite. Mais je dirais qu'en fait, ce qui s'est passé avec l'enregistrement de la musique populaire enregistrée, mais c'est la mise en forme complète, de même qu'il n'y a pas de tableau sans la surface et sans la toile et les pigments, on va dire, c'est la condition de production de l'œuvre pop, au sens où, en fait, sans cet enregistrement, on a affaire à une composition, on peut avoir affaire à une interprétation musicale, de musique populaire, mais on n'a pas affaire à l'œuvre en tant que telle. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous prenez un morceau comme « A Forest » de The Cure, c'est bien cet enregistrement qui fait référence et qu'on expérimente d'un point de vue esthétique dans tous ces détails, dans tous ces choix sonores où, je ne sais pas, je prends des cas assez caractéristiques de l'enregistrement parce qu'il y a ce phénomène qu'on appelle de l'overdub, hein, c'est-à-dire de rajouter des pistes d'accumuler en fait comme ça une série de pistes de telle sorte que le résultat sonore final n'est pas réductible en fait à la composition où on peut dire bon bah cette chanson c'est un ostinato, c'est la suite, une suite d'accords la mineur, do dièse, peu importe. Et l'expérience de la musique populaire passe par de la pop passe par cette expérience du son fixé, comme le dit Pierre Schaeffer à propos de la musique concrète, du son fixé de la musique, c'est-à-dire qu'on absente, en fait, à un moment, l'interprète, on absente l'événement de l'interprétation pour le retrouver sous sa forme définitive et répétable, reproductible, absolument à l'identique. Alors, on peut faire des reprises, on peut faire des versions en live, parce que ça reste une composition, mais l'œuvre pop, elle se tient dans sa version qui comprend tous les pigments, comme dans une peinture, qui aboutissent entièrement l'objet esthétique qu'on a expérimenté.
Deuxième terme de la définition que vous proposez dans le livre, donc le premier c'est l'enregistrement et le deuxième c'est la notion de populaire. Et vous dites que c'est une notion qui a beaucoup été en fait négligée, notamment en France. Et est-ce que vous pouvez nous dire en quoi elle a été négligée et qu'est-ce que vous voulez apporter, dire en appuyant sur cette notion de popularité ?
Alors, je parlais tout à l'heure de Pierre Schaeffer et de la musique concrète. Dans le livre, je démontre, alors en citant d'autres auteurs, hein, quelqu'un comme Roger Puivet, par exemple, qui, à partir de théories de philosophie analytique, défend aussi cette thèse, hein, que l'œuvre pop, c'est l'enregistrement. Donc, je ne suis pas la première à défendre ça, mais je reviens sur cet argumentaire. Mais effectivement, il y a quelque chose qui manque pour vraiment nous amener à la pop comme art musical, au XXe siècle, on a un type de musique, un type d'art musical qui s'est constitué comme œuvre, art musical d'enregistrement sonore, enfin art sonore d'ailleurs, qui est la musique concrète. Et la musique concrète, c'est donc cette musique qui procède des sons fixés face auxquels on doit avoir, dit Pierre Schaeffer, une écoute acousmatique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'écouter, de chercher la source des sons qu'on entend, mais de s'en tenir justement aux sons eux-mêmes, de suspendre l'interprétation. Et donc c'est aussi une disposition d'écoute particulière. Et donc si on entre dans ces enjeux de disposition d'écoute et de logique acousmatique, on se rend compte qu'avec la pop, ça ne peut pas marcher tout à fait de la même manière. Quand j'écoute un enregistrement de blues, là ça paraît évident, mais j'écoute un enregistrement de Robert Johnson, je ne peux pas ne pas me représenter à un moment Robert Johnson en train de jouer sa chanson. Enfin, je me figure comme ça un ensemble de représentation qui renvoie à une incarnation humaine en train d'interpréter cette musique. Donc l'idée qu'on écouterait simplement des sons fixés ne fonctionne pas tout à fait, même si on va être sensible à la texture complète hein, de l'enregistrement et que donc on va avoir aussi en partie cette écoute acousmatique, on va être sensible même parfois aux parasites du son qui vont contribuer à la constitution de l'objet esthétique enregistré, mais on a besoin, ce sont aussi des sons situés, on entend une guitare, on entend un piano, alors on ne peut pas forcément tout identifier, mais l'instrumentarium pop, il existe dans l'écoute, il n'est pas absenté. Donc il me fallait trouver des différences, si je tenais à dire qu'il s'agissait d'un art musical de l'enregistrement, avec la musique concrète. Et donc il y a cette différence du son situé et pas seulement fixé, mais il fallait aussi donner une place, donc en effet, à cette question du populaire. Et de fait, c'est peut-être aussi, ça revient à la première question, mais c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle je n'ai pas appelé, j'ai pas mis directement le mot de populaire dans le titre, c'est que voilà, populaire évoque, et je dis en France notamment, parce qu'on a moins de mal, me semble-t-il, dans le monde anglo-saxon, à parler de popular music sans que ça soit nécessairement une musique folklorique à quoi on fait référence. En France, populaire est un terme qui est très rapidement sociologique, mais qui s'éloigne assez obstinément de l'esthétique. C'est-à-dire que dès lors qu'on rentre dans le populaire, on est dans une analyse du culturel, de la culture au sens des pratiques culturelles, et jamais de l'art. Les arts, ou alors si on parle d'art populaire, c'est justement pour dire qu'on parle d'artisanat, finalement. Et il me semblait important de donner au populaire son sens non pas seulement sociologique, non pas seulement culturel, mais son sens esthétique. Et ce sens esthétique, je le trouve dans une promesse, en fait, qui tient, en fait, à mon sens, à cet art musical, qui est ce que j'appelle la promesse une promesse de réconciliation, qui serait une utopie de la popularité. Alors, j'explique un peu ces termes. L'idée, ici, c'est de... si on considère la musique populaire enregistrée comme un art, d'essayer de voir quel idéal la guide, en fait. Quel idéal, même si c'est un idéal vis-à-vis duquel certains musiciens pourraient avoir un rapport polémique, il me semble que quand vous êtes un compositeur de pop, et c'est peut-être là que la compositrice que je suis intervient dans l'écriture de ce livre, vous êtes en quête d'une exigence d'immédiateté, même si vous avez une culture particulière et que vous introduisez des complexités, des subtilités, même si vous aimez des choses justement pas mainstream, très, très peu, même de la musique pop difficile, ce qui paraît une sorte de contradiction, il y a vous conservez en vous cet idéal d'une musique qui serait à la fois accessible et artistiquement satisfaisante, artistiquement exigeante. Et je trouve la formulation de cette utopie de la popularité dans une lettre que Mozart a écrite à son père. Et Mozart dit à son père, je cherche à faire une musique de la juste mesure, c'est-à-dire une musique qui soit comprise, en fait, que les béotiens, qui ravisse les béotiens sans qu'ils sachent pourquoi, et en même temps les experts. Et donc ce moment de réconciliation, en fait, de l'ignorant ou du naïf, hein, on ne va pas forcément parler d'ignorance, mais du naïf et de l'expert, me semble complètement correspondre à, si vous regardez l'histoire de la pop, hein, et la manière dont on a constitué un canon de cette musique, les grands chefs-d'œuvre, les grands génies, ils sont un petit peu en quête de la même exigence que Mozart, c'est-à-dire que voilà, vous prenez, je sais pas, Pastime Paradise de Stevie Wonder, hein, un morceau voilà, immédiatement séduisant, immédiatement compréhensible, et en même temps qu'on va estimer génial, et qu'on va reconnaître que Stevie Wonder est un musicien exceptionnel qui en plus faisait toutes les parties instrumentales ou quelqu'un comme Prince par exemple, Purple Rain, voilà un morceau, qui sont des morceaux qui contiennent une évidence qui pourtant est à la fois absolument facile à entendre mais difficile à composer. We'll be right back. Et il me semble que ce canon de la popularité, au sens où, voilà, il y a dans l'histoire de la pop, si vous vous intéressez à la musique populaire, c'est des choses qui vont être citées, que les gens vont analyser. On se rend compte voilà, qu'il est le reflet d'un idéal, d'une espèce de promesse qui, à mon sens, oriente la création de musique populaire enregistrée, la création pop. Et même si vous êtes Frank Zappa, qui était complètement obsédé par les Beatles, ça le rendait complètement fou, en fait. Et eux incarnent vraiment aussi, leur œuvre incarne quelqu'un comme Paul McCartney. Hein, c'est vraiment la figure du canon de la popularité, quoi. Là, c'est Frank Zappa qui... Voilà, c'est à travailler avec Pierre Boulez, était marqué par l'ionisation de Varèse, enfin avait de toute manière une véritable culture de musique savante. C'est quand même quelqu'un qui fait de la musique populaire enregistrée, c'est quand même quelqu'un qui fait de la pop, à mon sens, parce qu'il se réfère en fait obstinément à cet idéal, mais sur un mode polémique, en fait, en luttant contre sa dégénérescence dans ce qui serait justement une dystopie de la popularité, au sens où on imposerait comme réussi des morceaux qui sont en fait des scies musicales insupportables, et donc qui sont des tubes, mais qui ne sont pas... des chefs-d'œuvre. Donc l'idée de l'utopie de la popularité, c'est que le tube, c'est-à-dire ce que tout le monde aime, soit un chef-d'œuvre. C'est en fait que le chef-d'œuvre soit accessible à tous. Et ça, c'est un peu la promesse d'un art musical qui advient dans un siècle qui est celui du modernisme aussi, qui est celui d'une entrée de la musique écrite dans une exigence de plus en plus, pas hostile, mais presque, aristocratique vis-à-vis des auditeurs, de l'écoute. Et en tout cas, Adorno incarne vraiment cette vision d'une musique qui se retrancherait comme ça, quasiment dans l'écriture de la musique. Il y a presque l'idée qu'il faudrait se contenter de lire les partitions. D'une certaine manière, voilà, en contrepoint absolu de ce modèle d'une musique qui ne pourrait être authentique qu'en se retirant pratiquement à l'écoute et surtout qu'en se retirant à la démocratie, il me semble que la pop est advenue et a promis justement un idéal assez romantique, de fait, le romantisme marque cette musique, a promis l'idéal d'une musique qui serait réconciliatrice, qui, comme dans la flûte enchantée de Mozart, voilà, rassemblerait tous les êtres autour de la flûte de Tamino. Et quand je dis tous les êtres, c'est pas seulement les êtres humains, c'est aussi tous les animaux de la forêt. Donc on a vraiment cet idéal d'un auditeur sensible avant que d'être... On ne demande même pas aux auditeurs d'être des personnes, on leur demande d'être des sensibilités. Donc, cette idée de réconciliation, il me semble que la pop s'en est chargée. Le problème, voilà, c'est que dans réconciliation, il y a popularité, mais il y a donc aussi succès, et que tout cela a convergé avec des enjeux industriels. De diffusion de la musique. Et que voilà, là, les problèmes commencent et la dialectique aussi.
Et ben, juste avant d'arriver à ça, d'arriver au problème, est-ce que cet idéal, est-ce que cette utopie de la popularité, donc comme vous l'appelez, est proprement occidentale ? Je vous pose la question parce que même si vous ne l'annoncez pas forcément au début du livre, en fait, de fait, l'immense majorité de vos exemples sont des exemples occidentaux. Mm-hmm. Vous pouvez parfois citer des artistes indiens ou éthiopiens, mais en fait, le corpus est principalement occidental. Est-ce que c'est le résultat d'un choix ? Ou au contraire, est-ce que c'est parce que cette utopie, justement, elle correspond à un idéal occidental ?
Absolument, je pense qu'il ne s'agit pas du tout de nier la richesse des musiques populaires mondiales, à l'échelle mondiale. Certainement pas. C'est important de le souligner. Il ne s'agit pas non plus de préjuger de ce que pourrait être une approche justement non occidentale de cette musique populaire dans sa version moderne également. Mais en effet, je crois que à la fois historiquement, matériellement, les premiers enregistrements, la diffusion de la radio, par exemple, est un phénomène américain ou lié à la guerre en Europe. Les premiers labels, tout ça se développe quand même en Amérique et en Allemagne, pour être précis, en Angleterre. Donc, on a une histoire industrielle de la phonographie qui est d'abord, même si elle se développe rapidement, occidentale. Et également, je crois que cette promesse dont je parle, en effet, est pleinement héritière des Lumières. Des Lumières et de leur critique romantique. Donc on a les deux, c'est-à-dire que les Lumières, pourquoi ? Parce que les Lumières, c'est ce moment peut-être illusoire de promesse de l'universel, où justement c'est ce moment d'accueil, d'ouverture du royaume de la pensée à tout homme. C'est ce que dit Kant, hein, qui dit « oser penser, sapere aude ». Vous n'avez pas besoin de vous référer au prêtre ou au maire ou au notable de votre ville. C'est la pensée, c'est votre raison d'homme qui vous donne accès à la compréhension du monde. Et ça, c'est un geste démocratique, un geste d'ouverture du royaume réservé de l'intelligence, de la pensée, à tout homme. Donc il y a cet humanisme déjà qui va rester très important dans la pop, alors avec plein de modifications, parce que la force aussi de cet art musical, on y reviendra peut-être plus tard, hein, c'est qu'il a introduit, justement il a ouvert ce royaume, non pas seulement de l'humanité, mais de la subjectivité, du fait d'être un sujet au sens minimal du terme, c'est-à-dire une entité sensible. Mais voilà, cette promesse d'universel, qui est aussi une espèce de promesse chrétienne aussi, l'humanité où tous les hommes sont frères, une égalité comme ça des individus face au divin, face à l'amour du Christ, et aussi le romantisme. Pourquoi ? Parce que donc le romantisme qui advient justement comme un peu une critique des Lumières, c'est un moment de retour vers la particularité, le moment où on se penche en Allemagne, les frères Grimm qui vont comme ça rassembler des folklores, des chansons, des contes. Donc ce folklore, il est recherché à la fois par les romantiques allemands, en Angleterre également, en France, en Espagne. Je parle pas mal dans le livre de Demophilo, qui est ce chercheur dont le nom même, c'est l'idée de celui qui aime le peuple, hein, s'est penché comme ça sur le folklore andalou. Donc il y a un retour vers les folklores, vers la particularité, contre la nation justement, contre l'État, contre l'universel étatique, qui est caractéristique de la démarche romantique à la fin du XVIIIe siècle, au début notamment du XIXe siècle. Et ça, cet intérêt pour les folklores, pour l'authenticité des folklores, et pour le dire simplement, pour l'âge pré-industriel de l'humanité, parce que c'est quelque chose qui va absolument rester dans l'esthétique de beaucoup de genres de la musique populaire enregistrée, qui, alors qu'ils passent par les médiations phonographiques, alors qu'ils passent par des médiations industrielles, vont être obsédés par la question de l'authenticité, des roots, c'est-à-dire des racines, de la communauté, et même d'un idéal pré-industriel. Je parle dans le livre de la manière dont on diffusait la première musique, les premiers enregistrements de musique hillbilly, même dans la démarche des Lomax, de John et Alan Lomax, donc père et fils, qui étaient des folkloristes américains qui sont allés comme ça enregistrer des gens dans les Appalaches, dans les prisons. Il y avait cette idée d'aller surtout loin des villes et de accéder comme ça à quelque chose qui ne serait pas altéré par le monde citadin, par le monde de la radio. Sauf que, en allant enregistrer dans les prisons, ils se rendraient compte que par exemple, quelqu'un dont ils ont fait littéralement une star, qui est Led Belly, lui, il était fan des musiques enregistrées de la radio, de la Tin Pan Alley. Donc, il fallait lui le faire mentir, en fait, il fallait lui faire chanter des choses plus authentiques que ces musiques écrites à New York entre la 5e et et la 6e avenue voilà, par des compositeurs urbains.
Donc, et c'est ça qu'on appelle la Tin Pan Alley.
La Tin Pan Alley, voilà, qui existe en fait dès la fin du 19e siècle et qui vend des partitions au départ. Il y a déjà des succès populaires très importants de partitions en fait. Mais progressivement, les techniques d'enregistrement arrivent et c'est finalement les enregistrements qui passent à la radio et qui engendrent voilà, une toute nouvelle forme d'éprouver la musique populaire. Mais donc le romantisme, là aussi, il me semble avoir un rôle décisif dans les enjeux esthétiques de la pop. Et de fait, voilà, c'est une manière d'aborder la question de l'industrialisation, de la rationalisation de nos modes de vie, qui trouve en tout cas son origine en Occident. Donc, moi, je serais très intéressée, évidemment, de discuter avec des connaisseurs du monde asiatique ou du monde africain pour avoir voilà, un autre point de vue. Mais il me semble que la pop telle que... C'est cette histoire de promesse, en tout cas, de réconciliation, s'inscrit beaucoup dans un héritage intellectuel européen. Oui.
Alors maintenant, on va passer au problème.
Il y en a beaucoup.
Et alors, ce qui est très étrangement à première vue, vous choisissez une sorte de figure tutélaire qui est en même temps une anti-figure, ou plutôt, comme vous le dites, une figure de l'anti-pop. Il s'agit de Théodore Adorno, le philosophe allemand, dont on sait à quel point il a haï la musique populaire, le jazz, puisque nous avons reçu ici Christian Béthune à propos de son livre « Adorno et le jazz », où il expliquait bien comment Adorno justifiait sa propre haine en fait, de cette musique-là. Or, Adorno est une figure presque tutélaire de votre réflexion. Vous y consacrez une section entière dans la première partie. Et ensuite, son nom revient très régulièrement puisqu'il vous sert un petit peu de référent, en fait, pour penser ce que vous avez à penser. Et donc, pourquoi avoir fait appel à lui? Et surtout, qu'est-ce qu'Adorno vous permet de dire, en creux peut-être, mais qu'est-ce qu'il vous permet de dire?
Alors, effectivement, ça peut paraître un peu paradoxal, puisque Adorno est plutôt connu pour ses affirmations extrêmement critiques, ses déclarations extrêmement critiques sur la musique populaire, dans laquelle il inscrit le jazz. Et sur la musique populaire précisément, il y a assez peu de choses, finalement. Il y a un ensemble de notes, finalement, peu unifiées, mais passionnante, qui s'intitule Current of Music, le courant de la musique, qui rassemble en fait ses études sur la radio de Princeton, qui est une radio étudiante, entre 1940 et 1941, donc où il s'intéresse à ce qui passe. Et là, il parle vraiment de pop, ce que j'appelle justement cette musique populaire enregistrée, puisqu'il parle de tubes, de chansons qui passent à la radio, de Frank Sinatra, d'Ella Fitzgerald, de chansons qu'il qualifie de sweet, par opposition à des chansons swing, donc sweet étant plus pop, justement plus sirupeux. Et on connaît une intervention qui date de 68, à la télévision allemande, où on lui diffuse un extrait d'une chanson de John Baez et des images de la guerre du Vietnam. Bon, en fait, la chanson que chante John Baez est un blues qui n'a rien à voir avec ça. Mais bon, voilà, le montage fait qu'on associe, sachant que John Baez s'est engagé contre la guerre au Vietnam, cette chanson à cette critique antimilitariste. Et Adorno dit qu'il est rendu très mal à l'aise par cette interprétation, alors que moi, évidemment, la voix magnifique de John Baez, tout ça, donc c'est très surprenant. On voit un monsieur comme ça en costume gris qui a l'air d'être très, quasiment bouleversé par ce qu'il entend, mais dans un sens négatif, et qui dit « la musique populaire est mauvaise, mauvaise sans exception. Le fait même de transformer en divertissement un sujet tel que l'horreur de la guerre, me fait vomir. » Enfin, il emploie pas ce terme de vomir, mais voilà, il y a cette idée d'une répulsion radicale envers la légèreté de la musique populaire qui est condamnée, dit-il, dès le départ, puisqu'il y a en elle une promesse de divertissement. Et en fait, ce divertissement ne peut pas coïncider avec une musique authentique. Donc ce que j'appelle justement utopie de la popularité, qui réconcilierait comme ça les êtres, les béotiens et les connaisseurs, mais aussi, en un sens, le divertissement et l'exigence, pour Adorno, c'est plus possible. En gros, c'est plus possible depuis La Flûte enchantée, quoi. Donc la pop est radicalement rejetée de ce point de vue-là, même s'il y a quelques petits textes comme ça dans les travaux d'Adorno sur certaines chansons, comme ça. Il y a une chanson populaire qui s'appelle « Penny Serenade ». Et donc c'est une sérénade qui dit elle-même qu'elle ne vaut qu'un penny, c'est-à-dire rien, quoi. Et il est ému par ça. Là. Donc là, il y a une espèce d'esthétique du banal qui va faire qu'il va reconnaître comme ça une espèce de puissance de la musique populaire à exprimer l'individuel et la réification aussi. Ça, c'est très intéressant. Mais disons que voilà, globalement, il y a cette critique qui est sans appel, qui apparaît sans appel.
Et alors, qu'est-ce qu'elle me permet de dire ?
Qu'est-ce qu'elle me permet de dire ? C'est que il est. Donc, je l'appelle un hater hyperbolique. C'est-à-dire, on a ça, la figure du troll sur Internet, qui va dire ça, c'est de la merde, ce qui est bien, c'est juste tel groupe de punk vraiment méconnu. Et bien, Adorno, c'est celui qui dit non, mais il n'y a même pas de groupe de punk vraiment méconnu. La seule chose qui est bien, c'est cette œuvre de Webern que seul moi suis en mesure de. Je suis quasiment le seul qui est en mesure de comprendre et d'écouter. Et ce qui m'est apparu, c'est que dans les discussions que je pouvais avoir avec des gens qui connaissaient mal la musique populaire, mais qui, la méprisaient un petit peu, c'est qu'il y avait une sorte de condescendance, c'est-à-dire oh, « oui, non, mais il y a des trucs bien, oui, j'aime beaucoup Barbara, c'est pas mal, puis Frank Zappa, oui, ça a l'air intéressant, puis quelques trucs des Beatles. Bon. » Et donc, ça produit cette... de la non-radicalité produit une forme de condescendance qui me paraissait en fait encore plus dommageable pour essayer de comprendre de quoi il s'agissait dans cette musique populaire qui justement me semble investie de contradictions et très adornienne en fait. Il y a beaucoup d'amateurs de pop avec qui on peut avoir des discussions adorniennes parce que précisément Adorno apporte la contradiction qu'on va retrouver à l'intérieur du débat critique sur les musiques populaires, chez des gens qui vont justement critiquer le mainstream, critiquer le fait que tel artiste est inauthentique. Hein, le mot d'authenticité est convoqué chez Adorno, mais aussi chez n'importe quel amateur de pop. Donc, il me semblait que cet ennemi objectif de la musique populaire, finalement, pouvait assez vite être constitué en allié subjectif, non pas pour affaiblir ses théories critiques, il ne s'agit pas du tout, au contraire, je tenais à montrer leur radicale hostilité à la musique populaire, mais il m'est apparu en fait que c'est justement en partant de cette radicale hostilité, de ce négatif, de l'idée que la musique populaire était confrontée à la standardisation de la musique, était confrontée à la réification des sujets musiciens, c'est-à-dire leur réduction à des images de marque ou à des figures comme ça, un petit peu figées, des icônes, mais en un sens qui à la fois conserve une part d'aura et la détruit assez rapidement. Toutes ces critiques-là, elles font partie de la pop, et donc Adorno me sert d'avocat du diable, et il n'est jamais là en réalité pour simplement être contesté, il est aussi là pour comprendre que finalement c'est un art dans lequel, je crois, un art musical dans lequel la dialectique est négative, comme chez Adorno, c'est-à-dire les contradictions ne sont pas là pour être dépassées, mais entretenues en tant que telles. C'est précisément dans le fait que c'est une lutte permanente. Il s'agit d'une lutte permanente pour ne pas que l'immédiateté devienne simplement un slogan publicitaire. Ça n'est pas quelque chose qu'on peut résoudre en disant « Non mais là, c'est bon, on est tranquille, c'est un chef-d'œuvre qui ne bougera pas. » Non, la musique populaire enregistrée, elle fait l'expérience de la réification dans la culture. Et elle a conscience de ça, et du fait que les œuvres d'art deviennent aussi des objets consommables. Et cette conscience la rend instable et justifie que des artistes soient sans cesse en quête d'une utopie de la popularité qui s'appelle pour rien utopie, parce que justement on n'y arrive jamais. Enfin, c'est une espèce de lutte parfois un peu désespérée quoi, pour arriver à trouver un point d'équilibre. Bon là, je brasse beaucoup de...
Est-ce que vous auriez par exemple un exemple de quelqu'un qui pourrait correspondre à ce que vous dites?
Je crois, bon, je parlais tout à l'heure de Frank Zappa. Il y a quelqu'un qui est un personnage qui est assez amusant aussi, qui s'appelle Art Stevie Moore, qui est le fils de Bob Moore, qui était un musicien de session vivant à Nashville dans les années 60 et qui enregistrait pour Elvis. Enfin bon. Et le fils de ce musicien, donc Art Stevie Moore, est un musicien qui a fait d'innombrables disques. Qui sont totalement underground, totalement méconnus, voire difficiles à écouter pour certains. Et quand on écoute Art Stevie Moore parler de sa musique, il dit « Mais j'ai toujours voulu être Paul McCartney ». Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a affaire là à un musicien dont toute la trajectoire est une espèce de lutte acharnée entre cette instance, cet élan vers la réconciliation pop, donc un idéal de pop immédiate, tubesque, partagée, dont la pratique musicale et l'exigence artistique démontrent au contraire un refus, une résistance absolue à produire des choses qui seraient faciles à entendre. Records are so much fun. Records are so good to buy. Records are the way I choose to entertain myself. Records are neat, sounding unbeatable. Records look so good and yet they take so little space. Records are here, nothing there to erase. Records make a man into a world celebrity. Records are good, records are right for me.
Est-ce que peut-être vous pourriez nous parler de cette question des racines, puisque c'est par là que vous commencez dans la seconde partie, et en quoi est-ce que la tension entre les racines et le déracinement est quelque chose qui est constitutif de la musique populaire enregistrée?
Alors, j'ai un petit peu abordé cette question en disant que voilà, il y a dans le phénomène de la musique populaire enregistrée cette tension entre ce qu'a été jusque-là la musique populaire, c'est-à-dire une musique qui était nécessairement ancrée dans un lieu, un temps, une communauté, et l'enregistrement qui, par définition, se déterritorialise, c'est-à-dire qu'une fois que quelque chose, un événement sonore, ou quel qu'il soit d'ailleurs, est enregistré, il peut désormais être entendu à l'autre bout du monde et inspirer des gens qui n'ont rien à voir avec la communauté dont il est issu. Et on retrouve ça même dans l'histoire de la country. Par exemple, je parle dans le livre d'un musicien qui s'appelle Ernest Tubb, sur lequel revient beaucoup Peter Goralnik dans un livre qu'il a écrit, voilà, un critique américain sur la country. Et ce Ernest Tubb, c'est un musicien texan et qui donc est tout jeune fan de Jimmy Rogers, qu'il entend à la radio et qu'il entend yodeler, c'est-à-dire faire ce chant d'origine autrichienne, qui donc déjà c'est l'effet d'une déterritorialisation, mais pour le coup lié aux migrations sur le territoire américain. Mais ce yodel, donc il est entendu à la radio, va devenir un trait musical des chansons de country des années 30, parce que Jimmy Rogers est une énorme star dès les années 20. Et Ernest Tubb donc va faire des tournées, voilà, en Amérique où il vend de la farine, hein, d'ailleurs. Il est sponsorisé en fait par un vendeur de farine, donc déjà on est pris dans ces enjeux marchands, industriels, puisqu'il en gros il a une petite camionnette comme ça avec l'enseigne. Il y a des photos, d'ailleurs j'avais pensé à un moment illustrer le livre avec cette photo, mais c'était peut-être un peu compliqué à comprendre. Cet Ernest Tubb, très vite, va devenir à son tour une star de la country et va passer sa vie dans ces énormes bus tours américains, à travers l'Amérique, en fait. Et donc, sa terre natale, qui est le centre de ses chansons, enfin, il n'est question que de Nashville et de Texas dans ses chansons, et de « going back home », de rentrer à la maison, elle est sans cesse décrite du point de vue de quelqu'un qui est objectivement déraciné, puisque... En fait, il ne revient jamais chez lui. Son succès, ses tournées musicales l'amènent tout le temps loin de lui. Donc, on a comme ça un ensemble de phénomènes de déterritorialisation, à la fois dans l'esthétique musicale. La musique de Nashville, c'est une musique qui est marquée en fait par des migrations mexicaines, migrations irlandaises, enfin pour le coup plutôt via la radio, autrichienne, enfin tout ce que je pouvais évoquer tout à l'heure, et par le fait qu'on a affaire à d'énormes stars, que Nashville, le Grand Ole Opry, qui est cette scène sur laquelle se produisent toutes les grandes stars de la country depuis les années 30, s'est diffusé nationalement. Donc c'est à la fois une espèce de fierté locale qui compte absolument dans la détermination esthétique de ce genre, et... un genre qui, dès le départ, est aussi complètement déraciné.
We'd like to introduce a man who has become a legend in his own time. The Texas troubadour, Ernest Tubb! I'm walking the floor over you. I can't sleep a wink, that is true. I'm hoping and I'm praying as my heart breaks right now. In the floor over you, you left me and you went away. You said that you'd be back in just a day. You broke in your promise and you left me here alone. I don't know why you did, dear, but I do know that you're gone.
Ce qui est frappant, je trouve, à vous écouter, c'est que vous citez beaucoup de noms de personnes et peu de noms de groupes. Et en fait, donc c'est lié au
dans
phénomène.
Le livre ou maintenant?
Non, là, dans le livre, ouais. Aussi, mais enfin ouais. Dans le livre, c'est peut-être moins prononcé.
Ouais.
Mais là, ou peut-être que c'est une impression purement subjective et partiale, je ne sais pas, et c'est vrai qu'on associe beaucoup la pop à des figures, en fait, à des stars. Et peut-être moins à des communautés, justement, ou à quelques groupes, mais ce n'est pas forcément ça qui ressort le plus. Et donc ça, c'est lié à ce que vous appelez le sujet pop. et à ce que vous défendez comme une des particularités de cette musique, qui est en fait la mise en valeur d'une subjectivité particulière. Vous citez un moment en début de chapitre un conseil de John Baez à des jeunes musiciens. Elle leur dit, pour faire de la bonne musique, en gros, soyez vous-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire être soi-même quand on est un musicien qui est constamment en représentation, constamment déraciné, justement, vous preniez l'exemple de ce chanteur dont j'ai déjà oublié le nom, mais qui donc parle de sa ville, mais qui n'y est jamais. Donc en fait, il n'est pas lui-même au moment
Ernest
où il chante.
Tubb, oui.
Voilà, Ernest Tubb. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire être soi-même dans ces conditions pour un musicien pop?
Alors, donc sur la question des groupes et des non-groupes, bien sûr que les groupes constituent une figure essentielle du sujet pop, puisque, et notamment dans les années 60, mais en réalité ça vient des orchestres, des groupes de chant, des chorales de doo-wop, ça c'est quelque chose qui existe depuis dès le départ dans l'expression de la musique populaire, mais effectivement la musique populaire va faire saillir l'idée non pas seulement de la subjectivité, mais de l'individualité, c'est-à-dire d'être cette personne et pas une autre, quelles que soient les qualités de cette personne relativement à une autre. Alors je m'explique, c'est ce que j'appelle l'idiosyncrasie. Idios, en grec, voilà, c'est l'unique, c'est ce qui est seul. L'idios, c'est celui d'ailleurs qui est tout seul, qui ne peut pas jouer avec les autres parce qu'il est dans une logique qui l'enferme en lui-même. Il est renvoyé à sa solitude. Et l'idiosyncrasie, c'est ce qui fait que je suis moi-même, mais non pas nécessairement sur le plan de l'authenticité ou de mon identité sociale partagée, mais ce qui fait, voilà, par exemple, cette façon que j'ai de parler, que je ne maîtrise pas nécessairement, ce grain de voix, ce rire qui va m'échapper alors que ce n'est pas forcément intentionnel, toutes ces déterminations qui constituent la matière de ma personne, qui font mon caractère, qui peuvent faire le charme d'une personne et qui font... d'une certaine manière, ce qui lui échappe et ce à partir de quoi, en réalité, elle va travailler à produire quelque chose de singulier. Et la puissance de l'enregistrement dans la musique populaire, c'est qu'elle a permis tout à coup de faire saillir ces dimensions-là de l'individualité. De l'individualité au sens où enregistrer sa voix, c'est avoir affaire à un phénomène totalement individuel, puisque vous n'allez parfois même pas être capable de reproduire à l'identique exactement le grain, l'intonation de ce que vous venez de produire. Et cette capacité, en gros, du microphone à capter en vous ce qui relève du non-intentionnel, de l'accidentel, et qui pourtant est tellement vous, est à la base, est un petit peu la base matérielle de cette capacité qu'a la pop de faire valoir, en effet, des subjectivités, des individualités dans leur singularité. Alors tout le paradoxe, c'est qu'ensuite, autour de ces enregistrements, il faut construire l'icône qui, elle, voilà, va d'une certaine manière se figer dans une identité qu'on va vénérer, qu'on va admirer, mais qui, effectivement, n'a pas la subtilité de ce moment de captation de l'enregistrement. Il y a un artiste que j'aime beaucoup, qui est Alex Chilton, voilà, qui a cette particularité, lui, de parcourir un petit peu aussi la dialectique de la pop, puisque dans sa jeunesse, il enregistre ce morceau The Letter, il a 16 ans, et avec une grosse voix presque de bluesman, il fait un tube fantastique, parce que le morceau est très bien écrit, et qui va devenir une espèce de figure presque christique de la musique indépendante des années 70, en fondant un groupe qui s'appelle Big Star, donc grosse star, donc qui est déjà un paradoxe en soi, et Alex Chilton qui se révèle avec une voix au contraire presque brisée, très émouvante et très très assez une voix de fossé, assez fragile.
Give me a ticket for an aeroplane. Yeah. ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend, got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more.
Donc, et la sensibilité que nous, amateurs de musique populaire, pouvons avoir à sa musique, elle tient fondamentalement à cette expression idiosyncrasique. On ne se dit pas, tiens, il chantait bien ou il chante et maintenant il chante mal. Non, ce qui est, c'est, ou même, on n'est même pas en train de se dire, c'était un soprano et puis il est devenu alto. Enfin, on ne va pas qualifier ça. Sa technique musicale, c'est pas du tout ça qui compte, c'est vraiment l'expressivité intentionnelle et non intentionnelle de sa voix. Et à mon sens, c'est ce qui rend, c'est ce qui donne, qui a donné d'ailleurs à cet art musical, qui est un art de la musique enregistrée, cette capacité à ouvrir le royaume de l'art du chant, à ouvrir le royaume de l'art musical, à eh bien, une infinité de voix, de types de cordes vocales, de types d'expressions à beaucoup de femmes, à des voix noires, à des voix genrées, mais aussi non genrées, des voix androgynes, des voix qu'on... Alors, il y a aussi cette question, bien sûr, dans l'art lyrique, hein, le castra, qui est une figure très intéressante. D'ailleurs, il y a des ponts, évidemment, entre art lyrique et art musical pop. Mais tout à coup, on ouvre... On se dispose esthétiquement à l'écoute de, d'une expression vocale qui n'est pas nécessairement éduquée, rationalisée. Parce que ce qui nous intéresse, c'est l'individu dans sa singularité. Et donc il y a un plaisir esthétique à voir ce que c'est, à entendre ce qu'est un individu, me semble-t-il, dans cet art musical pop, qui le lie de manière consubstantielle à la démocratie, je crois. Mais démocratie face à l'art, ce n'est pas tant une démocratie politique au sens où on ferait... Enfin, il y a presque aussi cette idée du suffrage universel, mais là, je parle vraiment de démocratie en termes d'accès à la capacité de produire une émotion esthétique, à un contenu artistique, simplement à partir de l'expression de ce qu'on est. Et donc, d'une certaine manière, là, quand on regarde les différentes voix pop, je sais pas, on se rend compte que parmi les grands génies reconnus de la pop, comme Lou Reed, Leonard Cohen, je parlais tout à l'heure de Dylan, voilà, ou David Bowie, il ne s'agit pas de gens qui nécessairement chantent très bien, même si, par exemple, dans le cas de David Bowie, on peut dire que c'est un très bon chanteur, mais... C'est pas si évident au départ. Il a une voix un peu nasillarde. Bon, Dylan aussi. Ce qu'on attend de l'interprète de pop, c'est, je le dis dans le livre, qu'il soit un virtuose de lui-même. C'est-à-dire pas seulement être soi-même. En réalité, c'est peut-être un peu plat dit comme ça, mais être un virtuose de soi-même. C'est-à-dire savoir dégager toutes les tonalités, toute la gamme de son idiosyncrasie. Et c'est ça qui intéresse l'auditeur de pop et non pas le fait d'être un grand chanteur. Et c'est aussi ça qui peut être agaçant, voilà, quand on des gens qui connaissent moins la musique populaire et qui vont simplement valoriser ceux qui sont bons chanteurs, avec une idée du bon chanteur. Oui, bah, elle sait chanter, mais elle ne sait pas chanter. Oui, mais aimer la pop, c'est aussi aimer ces voix qui sont plus fragiles et qui ne savent pas chanter, parce que ce qui se joue esthétiquement dans l'écoute d'une chanson pop, ce n'est pas l'évaluation de la capacité à atteindre telle note. Il y a aussi du faux, il y a aussi les voix fausses, les voix soufflées, les voix qu'on ne pourrait absolument pas entendre sans microphone sont aussi absolument bienvenues au royaume de la pop.
Mais ce qui est intéressant et ce qui fait pleinement partie de la dialectique de la pop, c'est que cette virtuosité de soi-même, donc cet accès à une forme d'authenticité du sujet, en fait, elle cohabite avec une compromission terrible, qui est la compromission à l'industrie musicale. Et donc, cette fabrique de tubes à la chaîne, avec ces gens qui composent avec des recettes qu'ils appliquent toujours les mêmes, dans l'espoir de gagner de l'argent, de vendre, tout simplement. Et donc, cette compromission-là, comment est-ce qu'elle s'articule ? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que c'est possible est-ce que vous avez en tête un artiste qui arrive à faire coexister les deux dans sa vie ?
Alors, absolument. Enfin, la première chose à dire, c'est peut-être que cette compromission qui est en gros associable à l'apparition d'une industrie de la culture, elle n'affecte pas que la musique pop, en fait. On pourrait dire que Bayreuth, c'est déjà un moment industriel dans l'histoire de la musique occidentale et que c'est déjà, entre guillemets, une compromission avec cette l'idée de vendre un objet culturel et l'idée de spéculer sur son succès et qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'entreprise commerciale, en fait, dès le départ, enfin, même chez des musiciens qu'on appelle plutôt classique, si on voit l'histoire de quelqu'un comme Liszt ou Berlioz, enfin, ce sont des gens qui avaient du succès, quoi, qui faisaient des tournées, enfin, qui étaient des stars, de manière tout à fait comparable. Donc,
oui, mais est-ce que ça veut dire qu'ils adaptaient leur composition ? Est-ce qu'ils imaginaient être l'attente du public ?
Alors, non, mais c'est pas non plus le cas de toute la pop. C'est-à-dire que là où l'industrie est, disons que tout producteur de pop est pris dans les raies de cette industrie phonographique, puisque les conditions de production de sa musique, c'est justement sont des, bien sûr les médiums phonographiques qui aujourd'hui prennent la forme d'un ordinateur. Ça a changé évidemment ces médiums, mais ces moyens de production ont changé, mais finalement, ils servent la même destination. Mais ce phénomène n'implique pas que tout compositeur de pop fonctionne exactement comme le duo Stargate, par exemple, qui a, dans les années 2000, composé les tubes de Rihanna, travailler en divisant, avec une division du travail très claire, et ça continue aujourd'hui, ça existe depuis le Brill Building, hein, dans les années 60, mais aussi à la Tin Pan Alley, il y avait cette division du travail, mais voilà, en disant, bon, alors là, il y a les top liners, ceux qui vont trouver les bribes de phrases, nous, on propose des accords avec un beat, et puis on teste des trucs, et puis à la fin, on essaie de faire quelque chose qui marche. Mais ce quelque chose qui marche, ce hit produit, ces hits qui sont produits à la chaîne, d'une part, il n'est pas complètement exclu que pour certains, ils répondent à une exigence artistique. Hein. C'est tout le moment qu'on a appelé pop-timiste dans les années 2000, où par exemple un duo comme les Neptunes produisait les tubes d'une musicienne morte depuis, mais qui s'appelle Aaliyah, et qu'on considère aujourd'hui comme des chefs-d'œuvre en fait, du R&B des années 2000. Et qui avait énormément de succès. Donc là, on retrouvait hein, cette utopie de la popularité réalisée via les moyens industriels, mais qui en fait sont à la fois des moyens industriels de diffusion, mais toujours finalement artisanaux de production, même s'il y a une division du travail. On peut pas, c'est pas non plus une division du travail. Il n'y a pas, 150 personnes qui travaillent sur un morceau. Il y en a peut-être 15, mais c'est déjà beaucoup. Mais disons que cette division du travail qui est la base de la fabrique des tubes, elle ne concerne pas toutes les créations pop. Il y a aussi des gens qui composent dans leur coin et qui enregistrent tout seuls. Donc, je pense que parler de compromission avec l'industrie, de tout compositeur de pop, quel qu'il soit, est excessif. C'est-à-dire que à quel moment on parle de compromission ? Peut-être à partir du moment où, tout simplement, le compositeur est conduit à renoncer à une chanson ou à la complexité d'un moment dans sa chanson parce que son label lui dit « ça marchera jamais » et que donc on va simplifier le propos. Et ça, effectivement, ce sont des choses qui arrivent. Il y a une chanson d'une musicienne qui s'appelait Mélanie dans les années 70, qui disait « What have they done to my song ?» Ils ont changé ma chanson, ils l'ont couverte de plastique, donc ils l'ont entièrement déformée. Et donc cette expérience, effectivement, de la simplification du propos artistique à des fins commerciales, c'est effectivement une expérience que un artiste qui va être repéré par un label et poussé pour vendre va faire nécessairement. Et même moi, en tant que musicienne, quand de gros labels se sont intéressés à ma musique, j'ai été confrontée à ça. Et d'ailleurs, j'ai pas pu, quoi. J'ai pas réussi à accepter que ça aille dans ce sens-là. Donc, ça fait pas de moi forcément quelqu'un de plus ultimement authentique que les autres, parce que moi aussi, j'utilise Instagram, j'utilise les images pour essayer d'amener à ma musique. Enfin, j'utilise les médiations assez ambiguës dominantes aujourd'hui que nous imposent en fait les réseaux sociaux. Donc il y a une violence qui est éprouvée, il y a une violence industrielle, mais est-ce qu'il s'agit de compromission ou plutôt d'une nécessaire lutte face à voilà, des conditions de production qui sont celles d'une culture industrialisée, mais qui concernent en fait tous les arts et tous les producteurs de, entre guillemets, de contenu. Ce mot est horrible, mais c'est ça, aujourd'hui, et même les producteurs de contenu intellectuel d'ailleurs. Ce n'est pas simplement pour la pop. Donc de ce point de vue-là, je dirais que la pop, elle est presque plutôt annonciatrice, quoi. C'est comme dit l'expression anglaise, c'est le canari dans la mine de charbon, quoi, qui est le premier à dire attention, enfin, l'industrie de la culture dévore ses propres, enfin oui, pas seulement ses propres enfants, mais dévore les œuvres qu'elle sert en même temps à promouvoir, quoi. Donc la compromission, voilà, on pourrait aborder plein d'artistes, mais je pense que quelqu'un comme Paul McCartney, qui est peut-être la star la plus importante en pop, c'est-à-dire dans le genre mélodique de la musique populaire enregistrée, est quelqu'un qui est fascinant de ce point de vue-là, parce qu'on ne peut pas dire que... enfin, il a absolument dominé les charts pendant les années 60, et en même temps... C'est pas quelqu'un d'inauthentique. Enfin, il était, y compris à l'intérieur des Beatles, absolument conscient de ce qui se faisait en musique contemporaine. C'est lui qui a amené l'influence de Stockhausen. Il continue de proposer sa musique avec une espèce de simplicité assez désarmante, d'évidence et d'humilité, sans non plus réduire son travail à quelque chose d'indifférent ou d'anecdotique. Donc, lui, il se tient en équilibre dans ses contradictions, mais... sans que voilà, ça salisse sa personne. Après, voilà, je parlais tout à l'heure de Michael Jackson. Quand Michael Jackson, alors même que voilà, il produit des œuvres qu'on peut considérer comme des chefs-d'œuvre de la pop, en tout cas, comme je sais pas, Beat It, je pense que il y en a plein avec Just Can't Get Enough. Hein, il y a plein d'exemples de compositions absolument novatrices et immédiates. Immédiatement séduisante. Bon, ben, à un moment, il fait une campagne pour Pepsi, quoi, et dans les années 80. Et voilà, là, on sent qu'il y a une instrumentalisation de ce personnage de Michael Jackson. Est-ce qu'au fond, ça affecte vraiment ses chansons? J'en suis pas sûre. Finalement, les chansons, elles restent. Et la campagne Pepsi, tout le monde l'a oubliée. Voilà.
Merci beaucoup, Agnès Guéraud.
Merci à vous.